Mike de Cahors sur CFM Radio, c'est maintenant Gilles Barré au micro. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue. Je vous propose aujourd'hui de remonter le temps jusqu'au Moyen-Âge. Alors, ça vous tente? Comment on va faire? Eh bien, si on se laissait guider par une experte en enluminure médiévale, voilà ce que je vous propose. Ce savoir-faire est né au cœur du Moyen-Âge, dans les monastères où les moines donnaient vie aux manuscrits en décorant des lettres, des pages de motifs colorés, parfois rehaussés d'or. Ces images n'étaient pas seulement décoratives, hein, guidaient la lecture et transformaient chaque livre en véritable trésor. Eh bien, aujourd'hui, ce savoir-faire renaît dans des ateliers ouverts à tous ici et là. Eh bien, sachez que pendant 5 jours dans Lot, à partir du 13 octobre, au domaine de Séguéla, à Porte du Quercy, eh bien, il y a un stage qui va avoir lieu, un stage d'initiation animé par Rolly Bidas, qui est enlumineresse officielle de l'abbaye de Moissac dans le Tarn-et-Garonne. Nous allons en parler avec elle pour découvrir la magie de cette pratique et ce que vivent les participants. Bonjour Rolly.
Bonjour.
Merci beaucoup
d'être... Merci de me recevoir aussi, c'est gentil.
Parfait. Rolly, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet.
Oui.
Quand on parle d'enluminure médiévale, qu'est-ce que cela signifie exactement? Et peut-on situer les débuts, peut-être même, je crois que ça a commencé dès le 5e siècle après Jésus-Christ?
Oui, tout à fait. En fait, l'enluminure est très ancienne. Hein. On a des vieilles enluminures à partir du 4e siècle même. Avec des techniques encore un petit peu compliquées à deviner. Il y a une méconnaissance de l'enluminure aujourd'hui. Quelques personnes vont dire « Ah oui, c'est un peu l'ancêtre de la bande dessinée des magazines d'aujourd'hui. Oui. »
Vous avez raison. Alors, je vais préciser ma question. Au Moyen-Âge, l'écriture était peut-être, je dirais, l'alpanage d'une minorité. Peut-on dire que savoir lire et écrire à l'époque, c'était détenir un certain pouvoir?
Oh oui, alors là, complètement, un certain pouvoir, et en même temps, c'était ceux qui savaient lire et qui savaient écrire, alors je vais dire quelque chose de vrai et de faux, qui dirigeaient. C'est vrai, c'est faux, parce que, par exemple, si on regarde Charlemagne, il ne savait pas lire, il ne savait pas écrire, il n'avait pas cette connaissance de la lecture proprement dit, mais il connaissait quand même les mots, les sens des mots, et il était quand même entouré de son premier ministre qui était Alcuin, qui lui était complètement lettré, il savait l'anglais, il savait le latin, il savait plein de langues, et c'est grâce à lui d'ailleurs qu'on a notre calligraphie d'aujourd'hui. Ah. Mais je vous fais une histoire un peu...
C'est très intéressant.
Voilà. Mais oui, les moines qui savaient lire, qui savaient écrire, avaient quand même une certaine puissance. Mais il faut savoir aussi que certains moines copistes ne savaient pas lire.
Donc en fait, savoir lire et écrire à l'époque, ça donnait aussi une forme de sécurité et de protection à ceux qui pouvaient le faire, en fait.
Ouais. Alors tout dépend en même temps de la classification, si je peux parler comme ça, des personnages.
Oui.
Je sais pas comment, il faudrait refaire un petit cours d'histoire parce que, par exemple, en période mérovingienne, on avait la reine Brunéo qui savait lire, qui savait écrire, et pourtant c'était une vulgaire visigothe qui était mariée avec un catho qui, lui, savait pas lire, savait pas écrire. Donc, vous voyez, en fait, c'est vraiment, vraiment condensé. Je sens que les historiens vont me dire, comme ça. Bon, c'est un peu vulgaire ce que je dis, mais. Dans la vulgarisation du contexte, mais en fait, le pouvoir de savoir lire, de savoir écrire n'était pas donné à tout le monde, mais ça ne faisait pas d'eux forcément quelqu'un qui ne pouvait pas copier ou qui ne pouvait pas faire de l'enluminure. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui, je comprends.
C'est la connaissance de l'art et de la technique. Je pense que les copistes savaient ce qu'ils devaient faire. Ils devaient en fait copier un texte, c'est-à-dire mot pour mot copier un texte, en savoir le sens. Mais je suis pas sûre que c'était important qu'ils sachent vraiment les mots qu'il y avait dedans.
Oui, oui.
D'autant plus que je vous rappelle, on parle en latin, c'est du vieux latin. Il y a beaucoup d'abréviations. Il devait y avoir une grande, grande connaissance en fait de cette langue, de la prononciation, de la grammaire. Et puis, il n'y a pas que ça dans l'écriture du Moyen-Âge. Il y a aussi l'écriture en elle-même, c'est-à-dire la calligraphie. La calligraphie, c'est la façon dont vous allez former la lettre, la dimension que vous allez lui donner par rapport au texte, l'épaisseur, l'inclinaison, vous voyez. Donc c'est encore plus profond que ça. La vision de la calligraphie aujourd'hui et de l'enluminure, c'est de l'art pour aujourd'hui, oui.
CFM, CFM Radio, votre radio dans le Lot.
Dans le Mac de Caro aujourd'hui sur CFM Radio, on parle d'enluminure, un stage qui va se dérouler le 13 octobre prochain au domaine de Séguéla à Port-du-Quercy, c'est dans le Lot. Ça va commencer le 13 octobre. On est avec Rolly Bidas qui est l'enlumineuresse officielle de l'abbaye de Moissac. On continue d'en parler dans les minutes qui suivent. Pour le moment, on retrouve Francis Cabrel, rockstar du Moyen-Âge sur CFM Radio.
Y a pas de langue ancienne, c'est la même toujours, pour dire les mêmes peines, jurer les mêmes amours. C'est écrit dans vos pages, mieux et bien avant nous. Rockstar del medio d'âge, senda balem de vous. Vous, c'est un trait de plume, c'est le pas des chevaux, c'est chanter à vos dames tout ce qu'il y a de plus beau, leurs âmes et leurs visages, loin au-dessus de tout. Rockstar del medio d'âge, senda balem de vous. La fille à la fenêtre qui chante les yeux clos cherche à se reconnaître dans chacun de vos mots. Ça vaut bien davantage que le plus lourd bijou. Rockstar del medio d'âge, senda balem de vous. Avec pour seule armure la peau d'un tambourin, sous la hauteur des murs, sous le balcon éteint où la belle est en cage et son amant jaloux. Rockstar del medio d'âge, senda balem de vous. La fille à son fenestro canto l'usel sbarazz et d'insca do canso espero se trova a cobal forso mai. Qu'une pulicho à you, rockstar du Moyen-Âge, nous descendons de vous. Geoffrey Rudel, Guillaume, Bernard de Vintadour, Peyre, Bertrand de Borne, sans autre troubadour, on veille à l'héritage, guitare autour du cou. Rockstar du Moyen-Âge, nous descendons de vous. On veille à l'héritage, un guitare autour du cou. Rockstar del medio d'âge, senda balem.
Un extrait du live Troubadour Tour, c'était Francis Cabrel, rockstar du Moyen-Âge sur CFM Radio. C'est le Mac de Caor aujourd'hui en compagnie de Rolly Bidas, qui est l'enluminairesse officielle de l'abbaye de Moissac et qui organise un prochain stage au domaine de Séguéla à Port-du-Quercy. Ce sera le 13 octobre prochain, un stage de 5 jours pour vous perfectionner à l'enluminure ou pour vous initier à cette discipline. On retrouve Rolly Bidas dans quelques secondes.
CFM Radio, 40 ans de liberté, 40 ans d'expression. CFM Cahors. Le mag.
Dites-moi si je me trompe, hein. Autant que je sache, l'enluminure au Moyen-Âge avait plusieurs fonctions. Elle avait une fonction décorative, une fonction informative, une fonction symbolique et une fonction de prestige.
Oui, au fur et à mesure du temps. C'est-à-dire tout ce que vous avez dit au fur et à mesure du temps. Au départ, l'enluminure va quand même expliquer le texte.
Ah oui.
On va se baser sur le texte pour expliquer la religion, la croyance... voilà, c'est plus une image, un peu comme avec les enfants. Voilà, on va commencer avec les tout petits enfants à expliquer ce qui se passe avec l'image. Ben, c'est un petit peu ça. Ensuite, il va accompagner le texte, et puis ensuite, elle va se différencier du texte dans les minures, et après, ça va évoluer, ça va devenir quelque chose de plus, de plus ornemental, de plus décoratif et de plus luxueuse aussi. Dans le mignon luxueuse, c'est un signe de richesse.
En fait, vous voulez dire que les enluminures avaient un rôle aussi pédagogique au Moyen-Âge, par exemple,
ouais,
pour transmettre des histoires bibliques ou des savoirs aux personnes alphabètes.
Oui, tout à fait, oui. Ouais. Ça permettait de la transmission, en fait, hein, tout simplement, l'explication, la transmission.
Oui, oui. La plupart des enluminures étaient réalisées par des moines, autant que je sache, dans les moines, dans des monastères, surtout, je crois que c'est vers le XIIe siècle, il me semble. Ces moines faisaient partie du clergé copiste, c'est ça?
C'est très aléatoire, parce qu'en fait, oui, le clergé copiste, ça permettait, en fait, de se passer des manuscrits et de recopier en fait des manuscrits sur d'autres manuscrits et se transmettre ses propres manuscrits. Mais ça se fait quand même depuis même avant le 12e. Hein. Les monastères se prêtaient des manuscrits pour les copier et les reproduire.
Ouais.
Mais les moines copistes étaient très importants. Ils pouvaient aussi se balader de monastère en monastère, soit pour la transmission, soit pour la reproduction, donner les explications du manuscrit, expliquer, on l'a fait comme ça, on l'a écrit comme ça. Enfin voilà, c'était aussi un messager du, je dirais, pour aider à reproduire un des manuscrits qui avait été choisi ou qui avait été commandé.
Mais dites-moi, Rolibidas, est-ce que les moines qui réalisaient ces enluminures avaient quelqu'un au-dessus d'eux pour vérifier que ce qu'ils recopiaient était exact et non une simple interprétation approximative de ce qu'ils voulaient reproduire? Il n'y avait pas quelqu'un pour faire attention à ça?
Oui, ils avaient quand même, ils avaient quand même des responsables qui permettaient en fait
de vérifier.
Qui permettaient. On peut parler l'armoirier en fait. C'est quelqu'un qui va être responsable de la bibliothèque du monastère en fait, de la bibliothèque du monastère ou de la abbatiale ou de l'abbaye, peu importe. Et ils avaient quand même un ordre d'exécution du manuscrit.
Mais alors,
chacun était à sa place okay. Et tout le monde devait exécuter leurs propres travaux. Quoi.
Là, je comprends. Mais là, on parle de moines. Est-ce qu'il y avait des enluminures qui étaient faites par des femmes ecclésiastiques?
Oui, même si l'histoire le cache, oui.
Ah.
Oui, il y avait des femmes copistes.
Mais c'était mal vu à l'époque, peut-être?
C'était pas tellement dit.
Ouais.
Faut se rappeler que la religion catholique est une religion d'hommes. Mmh. Voilà. Même si certaines femmes, dans certaines dynasties, que ce soit au niveau des Visigoths, des Mérous, des Capétiens, des Carolingiens, certaines femmes savaient lire, savaient écrire. Et certainement écrivait aussi, mais c'était quand même pas...
CFM Radio, votre radio dans le Lot.
On voyage dans le temps aujourd'hui dans le Mac de Cahors sur CFM Radio, puisqu'on parle d'enluminure, vous l'avez remarqué, hein, ce savoir-faire né au cœur du Moyen-Âge, hein, entre le 5e et le 15e siècle, dans les monastères où les moines donnaient vie aux manuscrits en décorant des lettres et des pages de motifs colorés, rehaussés souvent d'or, des images qui n'étaient pas seulement décoratives, hein, guidaient ainsi la lecture et transformaient chaque livre en véritable trésor. On en parle avec Rolibidas qui organise un stage d'enluminure au domaine de Séguéla à Port-de-Quercy dans le Lot. Ce sera le 13 octobre prochain, un stage de 5 jours. On retrouve Rolly juste après cette chanson de Luc Arbogast avec ce titre Nausicaa.
Cuibre vinte lo precaeres.
avec Arbogast Nausicaa sur CFM Radio. L'enluminure, c'est le sujet de ce mag de Cahors aujourd'hui sur CFM Radio, en compagnie de l'enluminuresse officielle de l'habit de Moissac, j'ai nommé Rolly Bidas. Rolly qui organise un stage de 5 jours d'enluminure au domaine de Séguéla à Port-du-Quercy dans le Lot. Ça commencera le 13 octobre prochain.
CFM, CFM Radio, votre radio dans le Lot. CFM Cahors, le mag.
Si on parlait aujourd'hui des techniques, est-ce que les techniques ont-elles beaucoup changé depuis l'époque médiévale ou sont-elles restées identiques aujourd'hui?
Moi, dans ma formation, on a essayé d'être au plus proche de la technique pour justement exécuter nos propres manuscrits à la base. On a des outils modernes, donc forcément, on va utiliser nos outils modernes. Bon, voilà, la dernière fois, j'ai vu un blaireau sur la route. Certes, j'avais envie de m'arrêter pour lui piquer quelques poils et en faire un pinceau. Mais vous comprenez bien que mon attitude est quand même très particulière. Donc, voilà, on va utiliser des outils modernes. Donc, dès l'instant qu'on utilise des outils modernes, on change quand même la base de la technique. Mais après, effectivement, les recettes médiévales pour les pigments, les assiettes pour la pose d'or, on va garder quand même ancestralement cette technique.
Alors, il y a encore plein de choses à dire, bien sûr, mais le temps passe très vite. Pendant cinq jours, donc, à partir du 13 octobre prochain, vous allez animer un stage au domaine de Séguéla, à Port-du-Quercy. À qui s'adresse-t-il ce stage? Faut-il savoir dessiner ou est-ce vraiment ouvert à tout le monde?
Non, je prépare le dessin, parce que comme je vous avais peut-être déjà dit dans une interview, en fait, il y a la compréhension du dessin médiéval qui est quand même très particulière, puisque en fait, on n'a pas du tout cette technique du dessin parfait et moderne par rapport aux perspectives, par rapport aux proportions. Donc c'est un petit peu différent. Donc je prépare les dessins et je fais en sorte que les élèves reproduisent le dessin soit sur planche lumineuse ou sur papier calque, sur un support donc parchemin de chèvre. Donc là, on reste sur une technique ancienne. Et voilà, tout en veillant qu'il n'y ait pas trop de défauts de dessin, qu'il n'y ait pas trop de défauts de copie, justement, pour pouvoir en fait poser les pigments au bon endroit et à la bonne proportion au fur et à mesure que le dessin va évoluer. Donc non, et c'est ouvert à tout le monde. En fait, j'ai dû adapter justement cet atelier pour que ça puisse être en même temps dans la compréhension, dans le geste, mais pas dans la difficulté d'exécution. J'essaie.
Alors, on rappelle que le matériel est fourni. Est-ce qu'on peut avoir une idée? Alors, le stage, on le rappelle, dure 5 jours quand même. Est-ce qu'on peut avoir une idée du tarif pour toutes celles ou ceux qui nous écoutent?
Oui, alors le tarif pour les 5 jours, c'est à 470 euros. Le matériel est compris. Quand je dis que le matériel, c'est-à-dire qu'il appartient après à l'élève, il peut repartir avec son matériel. Voilà. Et après, on est au domaine de ces gars-là. Donc, il y a la nourriture, le midi. Je précise que nous mangeons médiéval.
Ah ben voilà, une belle idée. Alors, effectivement, on rappelle
notre hôte, Magali, nous fait des recherches culinaires et elle nous fait des bons repas médiévaux tout le long du stage. Et c'est très agréable parce que ça alimente aussi un peu le stage et on reste un petit peu dans l'ambiance du Moyen-Âge. Donc voilà. Et puis pour la petite blague, on se costume en général le dernier jour.
Ben voilà une bonne idée. Voilà. Pour terminer, pour tous celles et ceux qui souhaiteraient s'inscrire, comment doivent-ils procéder?
Vous pouvez aller sur le site pour l'inscription, donc c'est www.hieroglyphes.fr ou vous pouvez me joindre au 06 14 22 64 77 que par SMS ou vous pouvez me joindre aussi au 05 36 04 03 74. Et puis il y a aussi le fait que vous pouvez joindre Magali au domaine de ces gars-là, qui est aussi sur Internet, on recherche Google Simple et elle prend aussi les réservations. Donc voilà, on prend les réservations l'une pour l'autre, donc il n'y a pas de souci.
Merci beaucoup, Rolly Bidas, pour ce partage passionnant, dont je rappelle, hein, pendant 5 jours, à partir du 13 octobre. 13 octobre, hein, c'est demain, il faut se dépêcher. Hein. C'est le domaine de Séguéla, oui. À Port du Quercy. C'est pas très loin de Montcuq, hein, dans l'Hôte, qui proposera donc ce stage d'initiation où les participants pourront découvrir la magie, hein, de l'enluminure et s'initier, oui, à cette pratique unique, sous la guidance, j'allais dire, de l'enlumineuse officielle de l'abbaye de Moissac, Rolly Bidas. Merci beaucoup.
C'est gentil. Si je peux me permettre, je voudrais juste rajouter quelque chose pour les gens qui sont assez loin. Il y a quand même une possibilité de mouvement, justement, de même de céder là. Donc, pour les... Oui. Voilà, ça évite le camping dans les tentes par ce temps.
Et oui, on peut également... effectivement, oui. On peut également loger, voilà, au domaine de Séguéla, surtout en plus des logements qui sont tout à fait adéquats et très agréables.
Oui, très très agréable. Et la petite salle qui nous reçoit, enfin la petite salle, c'est une grande salle en pierre apparente, c'est dans un endroit très calme, vous pouvez venir en chaussons, ça ne nous gêne pas. et puis les gourmands sont bienvenus aussi, parce que c'est vrai qu'on fait pas mal de dégustations aussi pendant les stages, donc il faut pas avoir peur de prendre quelques grammes. C'est normal, hein, c'est la convivialité du stage, il n'y a pas de stress. On apprend un petit peu l'histoire, on travaille beaucoup, parce que ça demande beaucoup de concentration, mais on se détend aussi un petit peu et on essaye d'être dans la convivialité. Voilà.
Merci beaucoup et à bientôt.
À bientôt, merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
CFM Radio, 40 ans de liberté, 40 ans d'expression.
C'est ainsi que se termine le Mac de Cahors pour aujourd'hui sur CFM Radio. Allez, je vous rappelle les deux numéros de téléphone que vous pouvez joindre pour vous inscrire à ce stage d'enluminure le 13 octobre prochain au domaine de Séguéla à Port du Quercy. Deux téléphones, vous êtes en voiture, alors garez-vous, prenez le temps de vous garer. Prenez de quoi noter, 06 83 73 26 94 ou encore bien sûr le 06 14 22 64 77. On se quitte avec Christophe Mali, le chanteur du groupe Trio. Redis-le-moi.
Il a regardé la mer longtemps, les vagues au large, les cormorants. Il a ressassé des souvenirs et s'est senti prêt à lui dire pour la première fois, lâche, je t'aime. S'il lui dit rien, elle l'aime quand même. À cœur ouvert et à genoux, passionnément un peu beaucoup, enfermé dans la citadelle.